Sora à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, les températures restent chaudes mais un peu plus respirables en France. L'épisode caniculaire historique prend fin dans une large partie du pays, mais la vigilance sanitaire demeure avec la crainte d'une forte surmortalité. Au Moyen-Orient, Israël a mené hier de nouvelles frappes dans le sud du Liban. Ceci après la signature par les deux pays d'un accord cadre visant une paix durable. Et le journaliste français Christophe Glaize est détenu en Algérie depuis un an. L'organisation Reporters sans frontières et ses proches réitèrent leur appel à sa libération immédiate. Nous l'avons évoqué dans les titres, les températures restent chaudes mais un peu plus respirables. L'épisode caniculaire historique de 11 jours prend fin dans une large partie du pays, même si le risque d'orage persiste et que la vigilance sanitaire demeure avec la crainte d'une forte surmortalité. La vigilance orange canicule a été levée aujourd'hui dans toute l'Île-de-France et 9 départements de l'Est selon Météo France, mais qui maintient ce niveau d'alerte dans 3 départements du Sud-Est et la Corse. En Europe, la vague de chaleur a déjà fait plus de 1300 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en France, Santé publique France comptabilise depuis mercredi environ 1000 décès supplémentaires par rapport au mois précédent. Un premier bilan probablement voué à s'alourdir. Le directeur général de la sécurité civile estime que le pire n'est pas forcément derrière nous. L'effet sanitaire de la canicule va continuer à se faire sentir. Il était invité ce matin chez nos confrères de RMC, Julien Marion, directeur général de la sécurité civile.
L'effet sanitaire de la vague de canicule, il va continuer à se faire sentir dans les jours qui viennent. On le sait, les organismes réagissent avec retard aux effets de la vague de canicule. Et donc on sait que cette semaine encore, pour encore 5 à 10 jours, on va continuer malheureusement à mesurer les effets de la vague de canicule que notre pays vient de connaître. La bonne nouvelle, c'est que les températures ont chuté, là qu'on est sorti de la vague de canicule. Donc on va pouvoir retrouver des conditions météorologiques un tout petit peu plus normales. Mais il faudra rester extrêmement vigilant. Et je pense en particulier en disant ça, aux personnes âgées isolées. C'est d'elles qu'il faut s'occuper et se préoccuper maintenant pour savoir comment elles vont et pour aller prendre de leurs nouvelles. La vague de canicule que nous venons de connaître est derrière nous, heureusement et tant mieux. Dès ce soir, on se retrouve en cellule de crise autour du Premier ministre pour penser le coup d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on a un deuxième épisode de chaleur équivalent ou moins important qui vient frapper notre pays dans les prochains jours? Quels enseignements on tire, si je puis dire, à chaud de ces 10 jours de canicule qu'on vient de connaître?
Julien Marion, directeur général de la sécurité civile. Et avec ces fortes chaleurs auxquelles le pays va être confronté, les horaires 9h-18h sont-ils adaptés? Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé faire un voyage d'études en Espagne pour s'inspirer de leurs pratiques. Il était invité ce matin chez nos confrères de France Info.
Je pense qu'avec les Français, avec le pays, il faut qu'on discute. Est-ce que le pays ne doit pas s'adapter lui-même en amont du monde du travail? Effectivement, les horaires 9h-18h sont-ils adaptés? On peut en discuter. Vous n'avez pas que ça. Toutes les finales de sport, on les fait en juin. Mmh. Si le mois de juin, il est comme un mois d'août et s'il est à 40 degrés, on voit bien que la pratique du sport, ça pose problème. Tous les grands festivals, c'est la même chose. Donc on voit bien les chantiers, on a tendance à les accélérer parce que d'habitude, en juillet-août, on ne peut pas travailler. Donc on voit bien que ces composantes de la société en amont du monde du travail, finalement, doivent être discutées. Et c'est pour ça qu'à partir de septembre, j'ai proposé aux partenaires sociaux d'engager un grand travail de réflexion. D'abord, on fera le retour d'expérience sur ce qui s'est passé juin, juillet, août, de manière très lucide. Et ensuite, et j'ai proposé d'ailleurs à l'invitation de la ministre espagnole du Travail que j'ai eu vendredi au téléphone, je lui ai demandé si elle était d'accord pour nous recevoir. Bien évidemment, elle a dit oui. Donc, on va aller ensemble en Espagne. On va faire un voyage d'études et je vais proposer aux partenaires sociaux, bien sûr, de venir. On y restera deux ou trois jours, bien évidemment. Et on essaiera de comprendre comment la société espagnole s'est adaptée à la chaleur. Ils sont juste à côté. Il faut qu'on considère en fait que la France, l'été, ça devient l'Espagne.
Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Et au moins 130 millions d'habitants en Europe concentrés dans la partie centrale et orientale du continent devraient encore connaître des températures supérieures à 35 degrés à un moment de la journée. Un chiffre en baisse par rapport aux plus de 190 millions d'hier. Dans l'actualité au Moyen-Orient maintenant, Israël a mené hier de nouvelles frappes dans le sud du Liban. Ceci après la signature par les deux pays d'un accord cadre visant une paix durable. Le chef du Parlement libanais affirme confirme qu'il ne sera pas adopté. Et l'Iran a prévenu que toute tentative d'opter pour une autre route que celle qui longe ses côtes dans le détroit d'Ormuz risquait d'accroître les tensions dans la région après une reprise des hostilités ces derniers jours avec les États-Unis. Et l'Iran et Oman ont confronté leur point de vue pour la première fois depuis la signature de l'accord entre Téhéran et Washington sur la gestion future du détroit stratégique. Dans le reste de l'actualité au Venezuela, les équipes de secours accompagnées de chiens renifleurs recherchent les derniers survivants après les deux puissants séismes de mercredi qui ont frappé le pays. Le bilan est passé à 1450 morts et 189 immeubles ont été entièrement écroulés et des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues. Dans l'actualité en France, c'est l'accident d'aviation légère le plus meurtrier du pays. 11 personnes ont perdu la vie hier dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Les victimes sont 5 moniteurs de parachutisme et 5 élèves qui devaient faire leur baptême et le pilote de l'appareil. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est exprimé sur place hier.
On a un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol, qui a commencé à prendre son envol et qui s'est ensuite écrasé à environ 300 mètres de la piste, alors qu'il s'apprêtait à prendre son envol pour lâcher des parachutistes, puisqu'il y avait hier et aujourd'hui, était organisé donc par le club local un certain nombre de sauts en parachute qui étaient des baptêmes de parachutistes. Donc on avait 5 instructeurs et 5 personnes qui participaient à ces baptêmes et le pilote de l'avion donc qui s'est écrasé. Donc encore une fois, très peu de temps après l'atterrissage, nous sommes ici à 300 mètres du bout de la piste. Les secours sont intervenus très rapidement, notamment les sapeurs-pompiers que je saluais sont intervenus très très rapidement. Malheureusement, dès leur arrivée, que ce soit les sapeurs-pompiers, les policiers, les constatations ont été que les personnes étaient décédées. Voilà, les personnes étaient décédées, malheureusement. Donc c'est un drame évidemment extrêmement important. Ce que je veux dire ici, c'est qu'avec monsieur le ministre Philippe Tabarot, nous avons longuement discuté avec les élus, les policiers, les secouristes impliqués, les sapeurs-pompiers, les personnels donc du centre hospitalier de Nancy. Je veux dire que l'émotion, elle est palpable et elle est intense et on la comprend parfaitement. Et c'est pour ça que nous sommes venus sur place avec monsieur le ministre pour évidemment apporter le soutien du gouvernement, le soutien de la nation finalement suite à ce drame qui marque les esprits et à juste titre.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et nous l'avons évoqué dans les titres, le journaliste français Christophe Glaise est désormais détenu en Algérie depuis un an. L'organisation Reporters sans frontières et ses proches réitèrent leur appel à sa libération immédiate et à une grâce du président algérien Abdelmajid Tebboune. Dans un tout autre volet, on va s'intéresser maintenant au modèle religieux marocain. Pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt aujourd'hui par plusieurs pays africains, mais aussi européens? Parce qu'il est présenté comme une réponse préventive au phénomène de radicalisation à travers la formation des imams et l'encadrement du discours religieux. Un modèle que certains États considèrent comme un facteur de stabilité, notamment face à la menace djihadiste au Sahel, comme nous l'explique Youssef Chieb, docteur en géographie humaine et professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord.
Les pays européens et les pays africains, je dirais même, et ça va vous surprendre, le Canada, l'Amérique du Nord. Ces trois entités ont, d'abord pour ce qui est de l'Europe et du Canada, il y a une très forte communauté marocaine, et je dirais plus largement arabe, et donc musulmane. Ils ont besoin d'anticiper, d'importer un modèle qui a fait sa résilience et ses preuves, qui est le modèle marocain, avant que ce soit trop tard, comme c'est le cas en France. On est arrivé à des violences urbaines, à des attentats, à Bataclan, où on est allé trop loin. Donc, c'est une approche préventive et anticipative. Nous avons un modèle qui existe, qui a fait ses preuves, qui est reconnu internationalement. Pourquoi inventer l'eau tiède quand on peut s'y inspirer d'un modèle qui est juste à côté? Pour le cas de l'Afrique, c'est autre chose. C'est la géopolitique qui s'installe. Et non pas la sécurité intérieure, mais la sécurité nationale des États, du Sahel, en particulier le Sahara, vu leur fragilité et vu leur incapacité à sécuriser leurs frontières et à affirmer leur état-nation, à donner un modèle économique alternatif aux populations, donc ils sont devenus donc la base arrière qui s'est déplacée du Moyen-Orient vers cet espace vacant en matière de sécurité, qui est donc Al-Qaïda et Daesh, sont ici installés. Donc ces pays, ils ont compris aussi que ces mouvances radicales et djihadistes sont en train de formater la jeunesse africaine et sahélienne. Et s'ils n'ont pas un antidote, ou j'allais dire un antivirus, ce qui est le modèle marocain, ça risque de se propager et ça risque de faire chuter d'autres régimes par effet domino. Donc ces pays sont demandeurs, d'ailleurs la plupart des imams qui sont formés et des mourchidettes qui sont formés au Maroc, direction Bamako, direction Niamey, direction l'Afrique en général, Sénégal, Côte d'Ivoire, ils savent que cette expertise acquise par les Marocains qui l'ont transmise donc à ces pays est en soi un cordon sanitaire pour protéger ces pays qui sont déjà affaiblis par d'autres facteurs économiques, géopolitiques ou géostratégiques.
Youssef Chieb, docteur en géographie. Et enfin, le football africain est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire au Mondial 2026. Jamais le continent n'avait été aussi bien représenté en phase à élimination directe, avec 9 sélections qualifiées pour les 16e de finale sur 10 après le départ de la Tunisie. Et si l'Afrique du Sud a été la première équipe africaine éliminée dans cette phase finale, tous les regards sont désormais tournés vers le Maroc, qui défie cette nuit les Pays-Bas pour une place en 8e. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nawel, l'Afrique n'avait jamais réalisé une telle performance en Coupe du Monde. Pour la première fois de son histoire, 9 des 10 sélections africaines engagées ont franchi la phase de groupe et se sont qualifiées pour les 16e de finale. Un record favorisé par le nouveau format à 48 équipes, mais qui illustre aussi les progrès du football africain sur la scène internationale. 5 sélections, le Maroc, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ont terminé à la 2e place de leur groupe, tandis que les 4 autres, la République démocratique du Congo, le Ghana, l'Algérie et le Sénégal, ont décroché leur billet parmi les meilleurs 3e. L'Afrique du Sud est toutefois la première nation africaine éliminée de cette phase à élimination directe. Les Bafana Bafana se sont inclinés 1-0 face au Canada dimanche sur un but de Stephen Eustachio, inscrit dans le temps additionnel. Solides défensivement pendant une grande partie de la rencontre, les Sud-Africains ont finalement cédé dans les derniers instants. Désormais, tous les regards sont tournés vers le Maroc. Les Lions de l'Atlas affrontent les Pays-Bas dans cette nuit de lundi à mardi, avec un coup d'envoi programmé à 3h du matin, heure française. Cette affiche des 16e de finale est particulièrement attendue. Demi-finaliste du Mondial 2022, le Maroc espère prolonger son parcours et continuer à faire vibrer tout un peuple. Face à une solide sélection néerlandaise, les hommes de Mohamed Ouahbi tenteront d'offrir aux supporters marocains une nouvelle qualification historique.
Merci Salma Darlaoui pour toutes ces précisions. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.